êtes toujours à l'écoute de Radio Canu au 102.2, il est 19h02 et c'est donc l'heure du Canu Info et des informations. Alors ce soir on vous parlera d'un rassemblement qui a eu lieu il y a quelques heures à Lyon au sujet du Kurdistan.
On poursuivra avec des nouvelles du plan froid bien sûr.
On parlera ensuite d'un village d'intégration par l'école à Saint-Genis-les-Ollières.
On suivra avec les nouvelles du squat Hôtel California.
Où on aura un superbe entretien téléphonique si ça marche. Et on changera ensuite d'échelon. On parlera un petit peu d'actu national et on vous reparlera de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, notamment sur la question de la déchéance de nationalité. Les réponses que le Conseil d'État a pu donner au gouvernement, c'était hier.
Et sur le même thème, on poursuivra avec les fameuses fiches S.
Voilà, et on terminera en vous donnant des chiffres un petit peu en forme de bilan sur l'état d'urgence.
On passera ensuite à la politique épilatoire chez Securitas.
Securitas, donc la boîte de sécurité qui n'aime pas bien les barbes. Et puis on parlera aussi de la baisse des dons au Resto du Cœur, assez rapidement.
On poursuivra sur une plainte collective qui est à Paris en ce moment, des jeunes qui portent plainte contre la police.
Et pour rester sur le thème police, on parlera également des gendarmes et de leur façon de voter très 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 à droite.
Et on partira, pour finir sur le national, à la ZAD à propos des procédures d'expulsion.
Et ensuite, on terminera, si on a le temps, par l'actu internationale. On vous parlera notamment de la révision de Frontex, ou plutôt comment la Commission européenne souhaite étendre les pouvoirs de la police européenne aux frontières.
Et on fera un saut en Argentine pour parler des élections, des urnes et de la rue.
Avant de terminer sur l'agenda.
Alors, bonsoir. Du coup, là, dans les studios, il y a plusieurs personnes qui étaient au rassemblement qui était organisé à 17h30 en soutien à la résistante kurde. Il y a notamment Ahmed. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi il y avait ce rassemblement aujourd'hui ?
En fait, pourquoi il y avait ce rassemblement ? Depuis quelques mois, en Kurdistan, il y a un couvre-feu, en fait. Donc, couvre-feu, ça veut dire que les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils coupent l'électricité, ils coupent l'eau. En fait, le couvre-feu, ça dure pendant que les résistants font ça. Si les gens ils résistent, ça peut être 14 jours, 15 jours. Et là, à ce moment, en Jizire, en Sour et en Nusaybin, ils ont mis un couvre-feu pour plusieurs de mois, en fait. Donc, ils font une opération qui ça va durer peut-être un mois, deux ou trois mois. Jusqu'à la résistance, ça tombe, en fait.
Et pourquoi ils disent qu'ils mettent ces couvre-feux ?
Pourquoi ces couvre-feux ? Parce que les jeunes qui étaient là-bas en Kurdistan, en fait, dans plusieurs villes, les jeunes et les habitants du Kurde, le peuple kurde, ils ont décidé de faire son autogestion. Ils ont déclaré leur autogestion. Et sur l'élection de 7 juin et 1er novembre, en fait, c'est la ville qu'ils résistent et c'est la ville qu'ils attaquent l'État turc, en fait. Ils ont voté pour les HDP, pour les partis kurdes légaux, en fait. Donc, c'est plus... En fait, c'est les HDP qui ont pris plus grand partie des votes, en fait. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas d'attaquer là-bas.
Donc, ils sanctionnent par des lois d'exception, donc par l'état d'urgence, le vote légal dans les urnes...
En fait, il faut savoir, quand on dit que c'est état d'urgence, c'est pas comme ici, en fait. C'est couvre-feu. Là, il y a un peu de différence, en fait. Quand on dit état d'urgence, les gens, ils comprennent que c'est comme ici, on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut, on peut, mais c'est juste, on ne peut pas manifester, on ne peut pas se rassembler. Mais ce n'est pas ça, en fait. Il y a des forces spéciales qui entendent ton ville, ils entendent ton maison, ils cherchent quelqu'un, s'ils le trouvent, ils le tuent, ils sortent. Il y a des forces spéciales qui, il y a des snipers qui sont dans les quartiers, les enfants de 11 ans qui sortent, ils les tirent par la tête. Donc il faut ça bien comprendre, c'est pas un état d'urgence comme en France en fait.
Et c'est-à-dire que du coup pendant que le couvre-feu dure, personne ne sort, personne ne peut sortir à n'importe quelle heure.
Ben dès qu'ils te sortent en fait, ils te tuent.
Voilà, et donc du coup pour aller chercher à manger, pour les besoins de la vie, c'est...
Bah tu vas mourir.
D'accord, très bien. Et t'as dit tout à l'heure qu'il y avait un couvre-feu tant qu'il y avait une résistance. C'est quoi, qu'il y a quoi comme résistance dans ces...
En fait, c'est là-bas, il y a un groupe qui s'appelle YDYDGH qui s'y résiste. C'est un groupe de jeunesse kurde. qui ont déclaré leur autogestion au Kurdistan dans plusieurs villes. Et là, quand il y avait une attaque, en fait, quand il y a eu une opération de l'État, ceux qui ont décidé, ils ont pris de l'autodéfense, ils se groupaient et ceux qui défendent la ville, en fait.
D'accord. Et est-ce que moi, j'ai entendu parler aussi qu'il y avait eu un membre du barreau d'une ville, je crois c'est Diyarbakir, qui avait été abattu par la police après avoir déclaré que le PKK n'était pas un parti terroriste.
En fait, il y a à peu près 2 mois, c'était Tahir Elçi, c'est président du barreau de Diyarbakir, sur une chaîne de télé, il avait dit que pour moi, PKK, Parti Travailleur Kurdistan, ce n'est pas une organisation de terroristes. Juste une semaine après, ils ont fait une convocation sur lui, mais ils ont relâché, ils n'ont pas mis en prison. Mais malheureusement, nous, là, maintenant, on dit pourquoi ils n'ont pas mis en prison au lieu de tuer. Nous, on aimerait bien qu'il était en prison comme s'il était vivant. Juste un mois après, il y avait une meeting, il a organisé une meeting contre le couvre-feu en Sour et en Diyarbakir. Là, il a été déclaré que nous, on ne veut pas la guerre dans notre ville. Nous, on veut que les flingues s'arrêtent, en fait, de cesser le feu. On veut plus de désarmer et on veut plus de guerre dans notre ville. Et donc là, il y avait une attaque de flics. Donc ils ont tiré. En fait, c'était un scénario. Les jeunesses qui sortent, en fait, les flics, ils ne s'arrêtent pas de tirer et ils sont en train d'échanger les flingues, les canons qu'ils ont utilisés. Ils avaient des lagans, en fait, pour qu'ils ne prennent pas de...
d'empreinte.
Ouais, d'empreinte. Donc, ça se voyait tout de suite que c'était un scénario, c'est un grand scénario, mais c'était pour rien, en fait. À la fin, ils ont tué.
D'accord.
Et est-ce qu'il y a eu récemment, enfin, ces dernières années, des mesures équivalentes, enfin, des couvre-feux qui ont été déjà mis en place dans d'autres villes du Kurdistan turc?
Dans cette année ou l'année dernière?
Les années précédentes,
enfin, ces dernières années. En fait, dans l'année 90, il y avait des couvre-feux, en fait, et il y avait... État d'urgence, c'est pas comme ici. Il y avait aussi résistance. En fait, là, maintenant, c'est ce qu'on peut lui dire. Ce temps, en fait, on cherche l'année 90. L'année en 90, on savait qui c'était notre ennemi. Et on savait très bien, il va venir, il va nous prendre, il va nous tuer. Là, maintenant, même, en fait, Erdogan et son gouvernement, ils ont dit que le conflit kurde, c'est notre conflit. On va aller trouver une solution. Ils ont fait des négociations avec le PKK. Et ça durait jusqu'à 24 juillet. En fait, au 21 juillet à Souroche, ils ont mis une attaque de Daesh. C'est par la main de l'État, ça c'est sûr. Ils ont tué 33 personnes. Juste 2 jours après, il y avait 2 policiers qui ils ont trouvé morts à la maison. Ils ont dit que c'était le PKK qui l'ont fait. En fait, les habitants de HTP, ils ont mis une déclaration à leur parlementaire. Ils ont dit qu'il faut le chercher, cette histoire, parce que c'est un peu noir. Il faut éclairer cette histoire. Et là, tous les habitants de AKP et des MHP, ils ont refusé de faire ça. Donc ça, là, ça se voit tout de suite, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est juste pour provoquer, pour trouver une raison d'attaquer sur les guérillas. Donc en 24 juillet, ils ont commencé de bombarder sur le territoire de guérilla. Et la guerre, elle est commencée.
D'accord. Et pour revenir...
Sinon, moi, je voulais juste dire une autre chose. Rappeler que le PKK, c'est quand même le Parti des Travailleurs Kurdes. C'est la principale force dans la région qui s'est battue contre Daesh et qui est quand même encore sur la liste des organisations terroristes et de l'Union européenne et des États-Unis.
Ouais. En fait, j'ai un rapport de la Ligue des droits de l'homme qu'ils ont depuis le mois de juin jusqu'au mois de décembre. En fait, il y a 762 civils qu'ils ont tués. Il y a 5470 gardes de vue. Et de 5472 gardes de vue, il y a 1034 qui sont en prison maintenant. De 1034, il y a 36 qui sont moins de 15 ans qui sont en prison, des enfants. En fait...
Yeah. Ouais. Non, ouais, dans le même truc, je peux rappeler que c'était quoi? C'était un lycéen, quelqu'un de 15 ans qui avait arraché une affiche de Erdogan et qui est allé qui a pris je sais plus combien de prison.
Et ben là, de toute façon, tu peux pas parler contre Erdogan. Alors on est bien mieux avec le Golo.
Et ça s'est passé comment alors ce soir pour le rassemblement?
Pour le rassemblement, c'était lundi, on avait posé notre lettre pour prendre l'autorisation de la manif au rassemblement. Ils nous ont dit que vous pouvez pas faire une manifestation, mais vous pouvez rassembler Nous, on avait choisi les droits devant le consulat turc. Mais je crois qu'il y avait une grosse répression du consulat turc. Jusqu'à hier, à 16h30, c'était bien. Ils avaient accepté, ils nous ont envoyé des réceptions d'autorisation. Ils nous ont appelé, c'est bon, c'est tout fait. En fait, vous pouvez rassembler devant le consulat turc. Et bien, hier, à 16h30, ils ont appelé, ils ont dit non, on ne peut pas vous autoriser de faire un rassemblement devant le consulat turc. On interdit tout, mais si vous voulez, vous pouvez changer les lieux. On vous propose d'Hôtel de Ville ou Place Bellecour. Et nous, on avait choisi de Place de la Comédie. Hier, on a envoyé une mail. Ils ne nous ont pas répondu. Ils ont attendu jusqu'à 16h30. Ils ont entré dans deux personnes qui avaient signé le lettre. Ils ont entré chez eux. Et là, ils ont fait des pressions et de faire interdire le rassemblement. Mmh. Et bien là, on était là, sur plan Place de la Comédie. Le gars, il est venu, en fait, il avait dit... Bon, vous êtes là, mais nous, on vous dit ce qui est. Vous ne pouvez pas lancer des slogans, vous n'aurez pas de flamme, de.
Banderole.
De banderole et les. Et les flags.
Les drapeaux.
Les drapeaux, voilà.
Oui, ils ont dit que c'était à cause du fait qu'il y avait l'état d'urgence, finalement. Mais ça, ils le savaient déjà lundi.
Ils savaient très bien, ouais. En fait, ça existait toujours, en fait, depuis longtemps. Mais. Là, comme je vous ai dit, en fait, il y avait une répression de consulat turc, ça c'est sûr. Parce qu'en même temps, il y a en Marseille, en Nantes, à Lorient, à Bordeaux, à Paris, il y a de la manif et ce n'est pas interdit. En plus, en Bordeaux, c'était devant le consulat turc. Et là, ici, ils ont interdit.
Et en train de nous donc, dire que Lyon, c'est la ville la plus réacte de France, quoi.
Bah, moi, je peux le dire. Allez, vas-y.
D'accord, ben, en tout cas, merci bien. T'as d'autres trucs à rajouter, peut-être, avant qu'on passe à... aux autres actus.
C'est ce que je vais rajouter. En fait, il faut suivre la situation du Kurdistan. C'est ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas de partager votre force.
Et après, on peut retrouver aussi le track que vous avez écrit sur Rébellion, qui a été fait pour ce rassemblement sur Rébellion.
Ok.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
On va faire une petite musique.
Désolé pour ce petit blanc, c'était de la musique expérimentale. On va parler maintenant rapidement du plan froid,
exactement. Alors, c'est des infos qui nous viennent du collectif des professionnels de l'urgence sociale de Rhône-Alpes. Alors, du coup, c'est un communiqué qui a été écrit, qu'on va pouvoir retrouver sur nébuleuse.info, un site internet, donc qui rappelle le nombre... deux personnes qui sont mal logées en France, donc c'est quand même 3 millions de personnes, dont 141 000 qui n'ont pas de domicile. Du coup, comme chaque année, là, les plans froids ont commencé à partir de novembre, mais bon, ça va être échelonné pendant tout l'hiver. Et comme d'habitude, c'est des moyens qui sont complètement insuffisants et qui ne sont pas adaptés aux situations des personnes. Du coup, là, le collectif des professionnels de l'urgence sociale rappelle que à Lyon, la demande, elle explose. C'est plus de 2000 personnes qui appellent le 115. Et que là, la priorité a été mise sur les solutions d'hébergement pour les familles. Du coup, dans les personnes qui appellent le 115, la moitié des gens sont des personnes isolées, femmes ou hommes. Mais pour autant, il y a très, très, très peu de places. C'est moins de 100 places, a priori, qui sont dédiées aux femmes et aux hommes isolés. Sinon, tout le reste, c'est pour des familles. Voilà, donc après, ça fait plein de trucs qui ne sont pas du tout adaptés à la situation. Après, c'est toujours des solutions très, très précaires, des solutions en périphérie de Lyon et dans des bungalows et loin des lieux de scolarisation des enfants.
Et du coup, c'est intéressant de croiser ça avec les infos qui en ce moment à propos de village de Saint-Genis-les-Ollières et de notre préfet Michel Delpuech, parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il a décidé la création là-bas d'un truc qui s'appelle un village d'insertion par l'école et l'emploi. Et donc, il devrait accueillir des Roms. Et du coup, il a imposé ça à la commune. Et là-bas, vu que c'est des gros réacs, il y a eu des manifs plusieurs fois et il y a eu des référés en justice pour interdire ça. Et si on relaie ça, c'est juste pour rappeler que Michel Delpuech, qui dans cette affaire apparaît un petit peu comme un mec super humain, qui organise des politiques d'aide, des politiques sociales, et bah c'est le même qui refuse de mettre des moyens en place pour l'aide d'urgence. Donc voilà, il y a vraiment deux manières d'apparaître dans les médias, et une qui est très relayée, c'est son rôle autour de ce village d'insertion, et par contre autour du plan froid, et bah là c'est profil bas, il apparaît pas ou très peu.
Très bien, très bien. Alors peut-être par rapport à l'annonce qu'on a faite de la communication avec l'Hôtel California.
Bah alors en fait ça va peut-être plutôt être un teaser de ce qui se passerait une autre fois, parce que c'était un petit peu compliqué cette fois-ci de pouvoir avoir les personnes de l'Hôtel California au téléphone. Du coup je peux juste vous lire rapidement le tract qui était sur Rébellion, qui appelait un banquet la mardi dernier. Pascal, donc, dans l'Hôtel California, ils ont créé une espèce de ce qu'eux-mêmes appellent école. Du coup, c'est à côté de l'école, ils se sont rendus compte que, bah, du coup, dans cet endroit où il y a environ une centaine de personnes qui habitent, il y a plein d'enfants qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller à l'école officielle, parce que bah, l'école officielle, c'est pas tous les ans, ça dépend d'où on habite, ça dépend de si on a vraiment un endroit où dormir ou pas. Et du coup, ben ils sont retrouvés un petit peu à vouloir créer un genre d'école. Ils ont commencé par l'alphabétisation, la lecture, de l'écriture, et puis petit à petit ils sont mis à faire de la géo, et puis alors là en janvier ils vont commencer avec l'histoire. L'idée c'est pas tant d'intégrer les enfants à l'école de la République, c'est plus en fait de leur donner des armes pour se défendre, pour leur permettre de comprendre ce à quoi ils vont avoir à faire face, et pas forcément se faire avoir du coup par les pouvoirs publics en général. Donc on espère qu'on va pouvoir aller les rencontrer et voir ce qu'ils font et qu'est-ce qui se crée là-bas. Mais juste là, ils ont fait un appel à soutien, ils ont besoin, alors je vous lis, de recharge de cartes de photocopie, de crayons, de scotch, de colle, de feutre, de peinture, de pinceaux, des cahiers, des feuilles blanches, des feuilles à carreaux, enfin des livres, des images, des posters, un petit peu tout ce qui peut servir en fait à faire fonctionner leur école. Et donc si vous avez des idées, un peu de temps ou envie d'aller les rencontrer, il suffit de leur écrire à californie@riseup.net, et voilà, on espère qu'à la rentrée on pourra avoir un super reportage sur place.
Ouais, c'est bien ça. On avance un peu et on va vous reparler de la tarte à la crème de ces dernières semaines, de l'état d'urgence et du projet de constitutionnaliser cet état d'urgence, ainsi que la déchéance de nationalité pour les binationaux. Voilà, alors le gouvernement a adressé plusieurs dossiers au Conseil d'État, et le Conseil d'État a en partie répondu hier. D'abord rapidement, le Conseil d'État, c'est une institution de la 5e République qui a comme premier rôle, comme son nom l'indique, de conseiller le gouvernement. Donc les réponses que donne le Conseil d'État ne sont que des conseils, et ensuite le gouvernement peut acter comme il veut. C'est également, au-delà de ça, une juridiction administrative, le Conseil d'État. Bref, hier donc, il a rendu au gouvernement son avis sur le projet de réforme constitutionnelle. Et ce projet de réforme constitutionnelle prévoit d'intégrer l'état d'urgence à la Constitution. On en avait parlé il y a deux semaines, et d'y inscrire également la possibilité de déchoir, de retirer de leur nationalité les binationaux, donc essentiellement les enfants d'immigrés, jugés responsables d'actes terroristes. Qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État ? Il nous dit qu'il est plutôt favorable à l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. On y reviendra dans un instant. Par contre, il est un petit peu plus perplexe, sans l'exclure tout de même, sur la question de la déchéance pour les binationaux. Il dit notamment qu'il estime que cette déchéance de nationalité pourrait être inconstitutionnelle, c'est-à-dire s'opposer à la Constitution. Il juge que la déchéance ne rompt pas le principe d'égalité entre citoyens, cependant, ce qui est contradictoire, parce que les binationaux ne deviendraient pas apatrides, puisqu'ils ont deux nationalités. Et donc, les citoyens resteraient tout de même égaux, nous dit le Conseil d'État. Pardon. Cela dit, il précise que la mesure visant cette fois des binationaux nés français, donc notamment sur le sol français, pourrait, je cite, se heurter à un éventuel principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant de priver les Français de naissance de leur nationalité. Donc ça, c'est un principe qui est reconnu notamment dans la Déclaration des droits de l'homme. Celui qui naît français ne peut normalement pas se voir retirer sa nationalité. Et donc, c'est un gros écueil, un gros problème si cette loi est constitutionnalisée. Et tout bien réfléchi, le Conseil d'État estime finalement, néanmoins, que la mesure pourrait être justifiée car elle vise à sanctionner les auteurs d'infractions si graves qu'ils ne méritent plus d'appartenir à la communauté nationale. Donc là, pour cette dernière affirmation, on n'est plus du tout dans le cadre juridique. Et en plus, il se contredit dans un même paragraphe. Conclusion rapide, que dit le Conseil d'État au gouvernement? Il lui dit ni oui ni non, la balle est dans ton camp et c'est toi qui tranche. Et le gouvernement, justement, sur cette question de la déchéance de nationalité, ça l'embête un petit peu, cette réponse du Conseil d'État, parce qu'il espérait sans doute que le Conseil d'État retoquerait, et ainsi François Hollande et son gouvernement auraient pu dire aux Français, on ne peut pas faire passer cette loi de déchéance de nationalité à laquelle ils avaient peut-être parfois pensé, mais en tout cas qu'ils n'avaient jamais proposé avant les attentats. C'était plutôt des thèses de la droite dure, voire du FM. Et donc là, le Conseil d'État, vu qu'il valide ceci, ils sont quasiment obligés, en plus c'est eux qui l'avaient proposé au lendemain des attentats, de le mettre en place, c'est-à-dire de l'adopter en Conseil des ministres et ensuite de le soumettre à l'Assemblée au printemps ou pendant l'été. Voilà, voilà. Alors là-dessus, en plus, ils sont un petit peu embêtés parce que leurs députés, la majorité à l'Assemblée, les députés PS, ils sont plutôt dans leur globalité défavorable, comme le patron du PS, Gambadélis, qui l'a dit il y a deux jours, ainsi que le député PS, Denis Robillard, qui a parlé à la presse et qui a dit, je cite, « Si la déchéance de nationalité nous est soumise, je ne la voterai pas. C'est une mesure qui laisserait penser qu'il y a des Français moins français que les autres. C'est un symbole qu'il ne faut pas agiter et c'est inefficace. Il y a des moments où il faut savoir reculer. » Voilà. Donc, on attend de voir ce qui sera acté par le gouvernement en Conseil des ministres. Et ils doivent se réunir le mercredi 23 décembre pour valider cette réforme constitutionnelle qui, je rappelle, donc contient la déchéance de nationalité et également l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, rien que ça. Voilà. Et est-ce que j'ai encore un petit peu de temps?
Ah mais oui, tu as tout le temps que tu veux.
Parce qu'on est encore sur le Conseil d'État et il y a, c'était la semaine dernière ou en début de semaine, je ne sais plus, une petite brève qui est sortie d'abord sur lundi matin, qui a été reprise ensuite par Mediapart et le gouvernement s'est également adressé une nouvelle fois au Conseil d'État, mais cette fois-ci pour lui soumettre l'idée d'interner les personnes fichées S. François Hollande l'avait annoncé devant le congrès réuni à Versailles, donc trois jours après les attentats. Et là encore, il a soumis l'avis au Conseil d'État, mais cette fois-ci en catimini, il n'a pas trop dit. Il y a eu néanmoins une fuite et la demande d'avis émanant du ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, porte, je cite, sur la constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux de la France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme. Le gouvernement souhaite recueillir l'avis du Conseil d'État sur la possibilité d'imposer des mesures privatives ou restrictives de liberté à certains individus connus des services de police pour leur radicalisation et leur dangerosité. C'est ce qu'indique le texte et il précise ensuite que, je cite à nouveau, de tels dispositifs qui ne revêtiraient pas un caractère punitif, mais auraient pour objet de prévenir la commission d'actions violentes de la part des personnes intéressées, se rattacheraient à une mission de police administrative. Ce qui veut dire, en fait, que tout ceci se placerait hors de tout contrôle d'un juge. Voilà. Alors, pour avancer un petit peu, en gros, hein, ce qui est proposé ici, c'est créer un Guantanamo français, mais un Guantanamo encore plus étendu, puisqu'en plus, il pourrait prendre comme base législative déjà existante la fameuse loi, ou tristement fameuse loi de rétention de sûreté qui avait été adoptée sous Sarkozy en 2008 et qui s'adressait aux individus qui étaient déjà en prison depuis plus de 15 ans, enfin au moins 15 ans, et qu'on laissait en prison, notamment pour les, et c'était notamment pour les personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité, nous dit la loi, et présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive. Donc, le ministre de la Justice, François Hollande, quand il avait pris son poste en 2012, Christiane Taubira avait d'ailleurs dit à propos de cette loi, « Je le confirme, elle sera supprimée. La rétention de sûreté, c'est juste pas concevable. » Alors, aujourd'hui, on en est très, 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 très loin, puisque avec cette proposition d'interner les fichiers S, on va évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Et je terminerai par une petite citation de Manuel Valls, qui était à la télévision il n'y a pas longtemps, et qui disait... Donc on lui demandait si c'était bien utile d'enfermer toutes ces fiches S, et lui disait que qu'il ne savait pas exactement, qu'il bottait un petit peu en touche, hein, c'était au Conseil d'État de rendre sa décision, et on lui demandait également qui étaient les personnes fichées S. Donc il disait qu'il y avait 10 500 qui étaient radicalisées de la mouvance islamique, disait-il, et puis il y a tous les autres qui peuvent être concernés, et il citait notamment les gens du PKK, voilà, et du Hezbollah, les Tamouls et d'autres militants, pardon, de l'ultra-gauche, voilà.
Et bah du coup on reste sur les fiches S, mais on descend à l'échelon local, puisqu'on a eu des infos par Lyon Capital sur les fiches S. Alors c'est assez marrant de lire cet article, parce qu'il rentre bien en résonance avec ce que tu disais. Alors déjà au niveau des chiffres, ils disent qu'il y a 250 personnes qui sont fichées S, radicales, etc. dans le Rhône, et ils reviennent sur notre nouveau président de région, monsieur Laurent Wauquiez, qui bien sûr ce matin à RMC a lui reparlé de ses camps d'internement, puisqu'il proposait que les individus dangereux classés en fiche S soient mis hors état de nuire avant qu'ils puissent passer à l'acte. Et il a demandé la mise en place de mesures administratives quand un individu dangereux est identifié comme tel.
C'était lui d'ailleurs qui le lendemain des attentats, ouais, avait déjà demandé la création d'un Guantanamo français.
C'est ça. Et à l'époque, ça avait fait un petit peu, tout le monde a dit « Oh non, 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 on ne veut pas faire ça, ça craint, ça craint ». Et maintenant, l'idée est en train de suivre son cours. Et du coup, alors dans cet article, il y a aussi un magistrat qui intervient et qui, lui, il se plaint. Il dit « Non, mais on ne peut pas faire ça, c'est pas la solution ». Et de toute façon, le problème des fiches S, apparemment, selon ce magistrat, donc qui s'appelle Olivier Janson, c'est pas le nombre de fiches S, c'est qu'il n'y a pas assez de policiers pour surveiller toutes les personnes fichées S. Donc on voit bien comment il y a un bon petit déplacement du discours. Et puis Laurent Wauquiez, pour le reciter, du coup, lui, il dit qu'il faut assigner à résidence les personnes qui ont des fiches S et qui sont suspectées, de leur poser un bracelet électronique ou une rétention administrative. Donc ça, c'est le fameux Guantanamo à la française, mais on utilise rétention administrative, ça a l'air de rien, pour qu'ils ne passent pas à l'acte. Et du coup, il dit clairement, lui, si on se limite aux mesures judiciaires, c'est trop tard. L'équilibre entre liberté et la sécurité doit bouger. Ce qui n'est pas du tout rassurant. Alors, il y a quand même quelques critiques dans cet article, notamment autour du fait, alors premièrement, que ça risque pas de limiter la radicalisation, hein, parce qu'ils pensent vraiment fiche S pour les radicaux entre guillemets islamistes et contre les méchants terroristes, parce que ça créerait des centres de rétention salafistes. Donc là, on agite un autre pantin qui fait très peur. Ils disent quand même que ce serait pas trop en phase avec les lois françaises et européennes. Et à la fin, là c'est plus intéressant, ils disent qu'on risque de passer d'un régime de la preuve, donc il faut faire preuve pour être enfermé, à un régime du soupçon. Quand il y a soupçon, on est enfermé. Et Karine Roudier, qui est maître de conférence en droit constitutionnel, dans cet article, rappelle quant à elle que depuis 1986, il n'y a pas eu moins de 12 lois antiterroristes qui sont passées, et que ça, ça n'a rien empêché. Donc voilà, mais l'article est fini par un consensus qu'il y a en ce moment. Alors je te rassure, hein, même si les Guantanamo, c'est pas pour tout de suite, le gouvernement, pour pouvoir surveiller tous les gens qui ont une fiche S, ils veulent créer 5000 postes de policiers et 2500 dans l'administration judiciaire. Et voilà, mais tout ça, en fait, quand on lit les articles, quand on écoute la radio, il y a toujours cette assimilation entre le fichage, les centres administratifs et le terrorisme qui fait peur, le terrorisme islamiste. Et quand on fouille un petit peu plus Internet, on peut trouver un truc chouette qui a été relayé par Rebellion et mis en ligne d'abord sur le Facebook de Violence Policière. Donc eux, ils n'ont pas peur de faire ça sur Facebook, mais bon. Et du coup, cette infographie, elle résume tout ce qui s'est passé depuis un mois d'état d'urgence. Alors les chiffres, ça donne quoi? Ça donne 2500 perquisitions administratives, dont 2154 qui n'ont abouti à aucune mise en cause. Donc ça veut dire que sur 2500 perquisitions qui ont été ordonnées sans passer par la justice, ils n'ont pas pu faire de suite judiciaire pour 2154. Et sur celles où il y a eu des suites judiciaires, donc ça fait 346 personnes seulement, donc sur 2500, 26 c'est des militants de gauche et écologistes, et 165 c'est dû à des infractions sur la législation des stupéfiants. Et il y en a deux seulement qui sont dus à associations de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, et même là-dessus il n'y a pas plus de précision. Et donc sur cette infographie, il rappelle que l'état d'urgence, c'est aussi et surtout un nombre important de manifestations interdites et des violences policières toujours plus nombreuses et toujours plus tolérées grâce à cet état d'urgence.
Et l'état d'urgence, c'est aussi parfois des mesures craignos, comme le licenciement cette semaine à Orly de deux agents de l'entreprise Securitas, deux agents qui avaient la barbe trop longue. Alors, la direction de Securitas a décidé de passer les barbes de ses salariés à la toise, nous dit je ne sais plus quel média où j'ai retrouvé ceci. Et Bachir, c'est l'un de ses deux salariés, a appris à ses dépens que la sienne était trop longue. On lui reproche également, alors ça c'est en fait selon lui et nous aussi, par rapport à ce qu'on a pu en lire, hein, des absences et des retards injustifiés, des bavardages intempestifs, etc. Et son autre collègues, c'était un petit peu la même chose qu'on lui a reproché. Alors, comment ça s'est passé? Il se présente à son poste de travail à 5h30 du matin le 24 novembre et Bachir est intercepté par sa supérieure hiérarchique qui lui signifie qu'il ne peut prendre son poste au motif que sa barbe n'a pas été taillée, contrairement à ce qui lui avait été demandé 4 jours plus tôt. Votre barbe, vous devez la couper. Et il m'a même proposé, un autre individu de l'entreprise, un de ses chefs, lui a même proposé de lui acheter une tondeuse pour son anniversaire. Voilà. Donc, bilan de tout ceci, Bachir dit quand même, c'est assez drôle, ma barbe ressemble à celle d'un hipster. Quant aux autres reproches, je n'ai pas eu d'avertissement, mais il fallait bien qu'il mette quelque chose pour justifier un licenciement pour faute lourde. Aujourd'hui, donc, il a porté plainte pour discrimination en raison de la religion et il a saisi les prud'hommes. Voilà, voilà.
Eh ben, on va faire une petite pause musicale pour se remettre de toutes ces informations pas très joyeuses.
C'est Fred Dorlin, c'est Marty Sprott, papy. E1, Dabro, réflexe collectif. Comment? Comment? Oh, c'est notre
triste course, un chaos sous contrôle qui mène au cachot, sponsorisé par Bouguer d'Assaut. Car jour après jour, ils nous suppriment précarité ou bientôt chômage ou usine. Refuser leur jeu, c'est commettre un crime. De citoyens à terroristes, reste une marge infime, un cap à franchir vers la liberté. Et puis juste le plaisir de bien les faire chier. Vive pleinement, quitte à être traqué, même si doucement, la vérité finit par marquer. Aucun retour possible quand t'as senti l'inadmissible. T'as droit à ton nom sur leur listing. L'ennemi est à la hauteur, affrontons-le avec honneur. Entièrement jusqu'à l'enterrement, à jamais nous voudrons leur tête. Les sans-terre en colère ne tolèrent pas la défaite.
Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Une lumière s'éloigne dans le lointain. La liberté se fait baiser dans une étreinte. Une crise et la pandémie, c'est la crainte. Ils dépassent les lignes, pourtant sont pas écrivains. La crème des connards est au pouvoir, c'est certain. Et n'espère pas mieux si tu votes demain. La main mise sur les intérêts, les êtres que nous sommes. En somme, si j'additionne, ça donne plein de mecs cramés. Depuis 30 ans, le ventre rongé par leurs promesses. Si je suis Boeington, réflexco, c'est les têtes brûlées. Emprumées dans une fumée épaisse, j'ai la porte, une sortie, une cité. Comme solution à la situation de crise, ministre de l'Intérieur qui insiste sur soi-disant ce qui nous différencie. Soyons clairs, nous sommes entourés de racistes. Quand il joue de la flûte, Marty se fait jouer le bassiste. Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace.
Comment ça on m'empêchera de frauder? Rôder dans le hall ou dans le trou, mais squatter sur l'avenue en terminant mon côté. J'ai la forte habitude de choquer le citoyen modèle.
Qu'est-ce qui se passe?
À croire que c'est un mouton que descend l'homme moderne. C'est le rap des soumis, pas celui des traîtres infiltrés. J'écris mon chemin tout seul parce que la vie n'est pas une dictée. Crache à par terre, à chaque insulte de Schmidtman. À chaque rêve qui foire, j'entends les hautes sphères qui ricanent. Alors file droit, fête tes emplettes, terrasse les murs. Le nombrilisme casse les burnes, télé-shopping remplace les urnes. Caillassage de plus, dégradation de la voie publique. Tapage nocturne sont les réponses aux abus de la République. Sa liberté commence là où s'arrête la nôtre. Demande aux Français ce qu'ils gagneront à faire la taupe. J'obéis ni au doigt, ni à l'œil, ni à la baguette. Dans d'autres contrées, rester libre pour se gagner à la machette. Réflexe collectif, laisse-nous refaire le monde, sale con. Surveille ton monde, il l'a mis en écoute sur son iPhone.
Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Les lumières stamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace.
Eh oui, alors on est bien dans le Canu Info et maintenant on reprend toujours dans la rubrique internationale. Alors c'était juste une petite brève sur les Restos du Cœur, puisque en fait les Restos du Cœur font un appel à dons, comme Radio Canu, nous ça a marché, on leur souhaite de la chance. Non mais parce qu'en fait il y a une hausse extraordinaire des demandes et depuis les attentats du 13... Voilà, et ben
2015.
Et ben en fait les dons ont complètement chuté. Donc toujours cet amalgame entre le
chez les terroristes, d'idées qu'ils font les gens.
Ben non, mais tu sais, c'est ça, c'est que les plus démunis, c'est les étrangers, c'est les précaires, c'est les terroristes et machin. Enfin, je sais pas, une espèce d'amalgame mais trop bizarre qui font que ça a des répercussions de partout quoi, ça. Voilà.
Ah bah oui, bah c'est à moi,
c'était même pas deux minutes.
Putain.
Alors du coup, moi je vais vous parler de quelque chose rien à voir, mais c'est pour continuer sur la rubrique police, fiche sécurité, tout ça et tout. Puisque qu'est-ce qui se passe? Ça a été relié sur Mediapart. Il y a des jeunes à Paris qui ont déposé une plainte collective contre X, donc hier. sur des faits allant de l'été 2013 au 15 juillet 2015. Et je vous ai pas dit c'était contre qui, contre quoi, c'est contre la police. Et donc l'article, il relate tout ce qu'ils subissent, eux, c'est dans le 12e. Il relate tout ce qu'ils subissent quotidiennement par la police, donc ces papiers jetés au sol, propos racistes, palpations abusives, visant les parties génitales, voire doigts dans les fesses, téléphone portable fouillé ou jeté dans les égouts, claques, coups de matraque, visage aspergé de gaz lacrymogène, des tabassages dans les commissariats, des intimidations, ensuite suivi de refus d'obtempérer, de poursuite pour refus d'obtempérer, rébellion, outrage, crachat, tapage nocturne. Donc voilà, et qui c'est qui est visé ? C'est une brigade qui s'appelle la brigade de soutien des quartiers, donc qui appartient à la préfecture de Paris et qui a pour but de contrôler les individus regroupés en nombre sur la voie publique, de mener des opérations de sécurisation sur la voie publique et dans les halls d'immeubles. Donc ça rappelle aussi ça, tristement, le mandat Sarkozy et toutes ces lois contre l'attroupement qui fait que juste être entre potes dehors, ça peut devenir un délit. Et voilà, et du coup, il y a eu ce qu'ils expliquent sur Mediapart, parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait des plaintes collectives qui naissent comme ça, c'est qu'il y a eu un gros travail des assos locales et d'assos nationales aussi pour accompagner les jeunes dans cette démarche, parce que c'était pas du tout évident d'oser, en fait, parler de civils qu'ils ont subis, parce que là, en fait, la plainte, c'est dans les mots pour violence volontaire aggravée, agression sexuelle aggravée, arrestation arbitraire, séquestration, destruction de biens, discrimination ou abus d'autorité. Et donc c'est pas du tout évident de porter des plaintes comme ça, surtout quand ça concerne aussi des agressions sexuelles commises par les keufs. Et on va essayer de suivre un petit peu la suite de cette plainte qui est donc déposée à Paris.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Et voilà, sans amalgame aucun, on passe de la police à la gendarmerie nationale. Et pourquoi ? Parce que Paris Lutte Info a fait une majoration d'un article qu'ils avaient publié le 8 décembre concernant le vote des gendarmes mobiles. Attention, tout le monde va être très étonné. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les gendarmes mobiles, vu qu'ils vivent un petit peu dans des casernes, c'est un petit peu comme des animaux de laboratoire, et on peut observer leur comportement en milieu naturel, et notamment qu'il y a des bureaux de vote où il n'y a que des gendarmes mobiles qui votent. Alors là, c'est des analyses au niveau des votes qui sont plutôt simples et qui font bien flipper, puisque, tenez-vous bien, gendarmes mobiles et gardes républicains votent majoritairement Front National, bien sûr. Alors les chiffres, par exemple, c'est un bureau de vote à Versailles, le numéro 10, pour ceux qui veulent des précisions, où il n'y a que des gendarmes mobiles et leurs proches, et là on obtient 61,85% de vote FN. À Nanterre, un autre bureau laboratoire comme ça, où il n'y a que des gendarmes mobiles, c'est 51,83%. Et il arrive que le gendarme se dilue dans la population, en tout cas au niveau des bureaux de vote. Et là, malgré ce traitement qui n'est pas chimiquement pur, on n'est pas dans la science parfaite, ils se sont rendus compte que quand ils se mélangent à la population... Alors, de Grenoble, par exemple, le bureau de vote au premier tour, oui, c'était pour le premier tour, j'ai oublié de le dire, des élections régionales, atteint 38,56% de FN contre 15,7% au niveau de la ville. Donc, voilà les votes de nos amis gardes mobiles. Et l'article se conclut par une phrase assez sympa où ils disent eh oui, derrière les uniformes, il y a bien des êtres humains très perméables aux idées d'extrême droite. À retrouver sur Paris Lutte Info.
Très bien, alors maintenant on va retourner vers Nantes, dans la zone à défendre, donc la zone à défendre qui lutte depuis de nombreuses années contre... ça grésille, c'est vraiment ça. Non, je vais faire abstraction. Enfin, depuis plusieurs années, du coup, il y a une lutte contre le projet d'aéroport. Du coup, là, il y avait des procédures d'expulsion qui avaient été mises en route par la société Aéroport du Grand Ouest, AGO, une filiale de Vinci qui est concessionnaire du futur, peut-être, on n'espère pas surtout, aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, la procédure d'expulsion a finalement été retirée. Du coup, ces assignations visaient 4 exploitants agricoles et 11 familles qui vivaient sur le site, qui vivent encore sur le site et qui vivront sur le site. Voilà, conformément à la volonté du gouvernement, la société Donc, Aéroport du Grand Ouest souhaite commencer les travaux de l'aéroport début 2016. Du coup, il y a des luttes à mener pour continuer à empêcher cet aéroport. Parce que du coup, là, il y a des mobilisations qui vont avoir lieu encore et toujours pour continuer à soutenir l'abandon de ce projet. Dans une lettre qui a été publiée par l'ACIPA, c'est l'association citoyenniste anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ils ont écrit qu'il fallait de demander à François Hollande d'annuler ses assignations qui sont exigées par la société donc, de Vinci. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu rigolo que juste là, maintenant, pendant qu'il y a la COP21 et tout ça, il relance cette volonté de faire quand même un aéroport, alors que jusque-là, bon, ça s'était un peu calmé. Voilà, donc dans la lettre, la CIPA écrit « Nous vous rappelons vos promesses successives de respecter la trêve liée à l'existence des recours juridiques engagés jusqu'à leur épuisement, avant tout début de travaux ou expulsion. Des recours sont toujours en attente de jugement. Cette nouvelle procédure qui s'engage se heurte à vos promesses de chef d'État. » Voilà, du coup, cette demande d'expulsion immédiate est retirée maintenant. Et elle était accompagnée d'une astreinte de 200 euros par jour en cas de refus de quitter la ZAD. Voilà. Et donc, un ensemble de mesures qui seront sans doute renouvelées en janvier 2016. Et c'est pour ça qu'il faut continuer en 2016 à aller sur la ZAD pour éviter tout ça.
Voilà.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste, les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Avec quelques petits problèmes techniques ce soir.
Mais on a saboté mon nouveau jingle, je suis dégoûtée. C'est pas grave parce que vous pourrez le réécouter bientôt, prochainement. Il y aura dans la soupe sonore qui a été faite au goûter sonore, il y aura notamment ce merveilleux jingle en ligne sur le site de Radio Canu. Bon bref, vous avez compris tout de même qu'on va commencer la rubrique internationale et c'est ça l'essentiel. Et donc je vais vous parler maintenant de Frontex. Alors Frontex.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Donc voilà, tout d'abord sur les réfugiés. Donc l'Europe pour le moment resserre, comme vous l'aurez compris, son accueil aux réfugiés. Après les belles annonces de « Ouais, venez les Syriens !» Eh ben non, hop, c'est fini tout ça. Enfin, c'est fini, ça n'a jamais vraiment existé dans la réalité, finalement, mais bon. Du coup, là, ça fait qu'il y a des nouveaux murs qui sont érigés un peu de partout, des politiques discriminantes qui forcent des milliers de réfugiés non conformes à errer aux frontières de l'Union. Depuis novembre, tous ceux qui sont pas syriens, irakiens ou afghans sont systématiquement refusés aux frontières macédoniennes, serbes et croates. Par ailleurs, la Commission européenne a présenté ce mardi un plan pour renforcer la sécurité à ses frontières. L'objectif est de remplacer l'agence Frontex, qui gère présentement les frontières de l'Europe, par une agence permanente de garde-côtes et de frontières, qui jouerait d'un budget et d'un effectif deux fois plus important. Donc elle permettrait, selon Bruxelles, de limiter les flux migratoires et de sauver l'espace Schengen. Or, pendant que l'Europe se tient ainsi occupée à discuter de la sécurité à ses frontières, les réfugiés sur les routes sont laissés à eux-mêmes. Donc dans les Balkans, le manque d'informations disponibles et l'absence de voies sécuritaires, l'absence de voies, alors c'est V-O-I-E-S, enfin bref, laisse place aux pires abus et encourage à la fois l'expansion des réseaux de passeurs et la corruption. Du coup, Bruxelles doit proposer là bientôt d'étendre les prérogatives des gardes-côtes pour améliorer la protection des frontières extérieures. Mais pour le moment, ça ne fait pas l'unanimité auprès des États membres. Et du coup, voilà, c'est que l'exécutif européen souhaite donc créer cette agence européenne de garde-côtes et de frontières qui sera ou serait habilitée à intervenir aux frontières extérieures sans le consentement préalable de l'État concerné. Cette nouvelle force permettrait à l'Union européenne, mise sous pression par l'afflux des migrants, là, de reprendre la maîtrise de ses frontières extérieures. Enfin, c'est ce qu'ils disent, eux, pour légitimer encore plus de garde-côtes et tout de contrôle de partout, tout ça.
Ce qui, à chaque fois, au passage, amène les migrants à prendre des routes de plus en plus dangereuses, puisque de plus difficiles à surveiller.
Et qui n'a jamais réduit non plus le nombre de migrants, qui fait juste que faire des bouchons de migrants aux frontières, plein de misère.
Et des morts pas mal en Méditerranée.
Et du coup, déjà, donc là, Frontex, jusqu'à présent, faisait la coordination de la gestion des frontières extérieures. Et du coup, Frontex s'était créé en 2004. Et du coup, voilà, avec la crise des réfugiés, là, ils se sont dit, ben voilà, on va faire encore plus. Et depuis septembre, il y a plusieurs États comme la Hongrie, l'Autriche et la Slovénie qui ont quand même érigé des clôtures à certaines de leurs frontières. Donc, c'était déjà complètement fou pour les migrants. Et qui, pour l'Europe, met à mal les accords de Schengen signés en 85, qui instituent la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union. Voilà, donc là, actuellement, Frontex, jusqu'à présent, il y avait une force de réaction rapide qui s'appelait RABIT, composée d'un vivier de gardes frontières. Et jusqu'à présent, leur déploiement ne peut intervenir qu'à la demande d'un État membre. Et c'est pour ça que là, maintenant, par exemple, à la frontière gréco-macédonienne et en mer Égée, il y a une requête d'Athènes depuis décembre pour avoir Rabbit. Mais sauf que pour les autres pays, certains autres pays européens, ils trouvent que cette demande de la Grèce vient trop tard. Et du coup, ils ont menacé la Grèce de partir de l'espace Schengen parce qu'elle n'a pas fait appel à Rabbit assez vite, quoi. Elle n'était pas esprit à Rabbit. Et du coup, voilà.
Ça du commence coup, à faire beaucoup pour les Grecs. Quand même.
Heureusement que maintenant, ils s'y sont mis. Mais bon, du coup, c'est pour éviter ces situations qui risquent de mettre en péril les accords de Schengen que la Commission européenne entend, à l'initiative de Paris et de Berlin, élargir les prérogatives de Frontex pour qu'elle puisse prendre en charge la surveillance des frontières extérieures. Cette nouvelle force compterait un millier d'agents permanents à l'horizon 2020. Compte là, il y en a 400 pour Frontex et disposerait d'un vivier de 1500 agents supplémentaires mobilisables en quelques jours. Son budget serait au moins deux fois plus important que celui de Frontex. Voilà, donc cette proposition a été accueillie favorablement par la Grèce maintenant. Et également par l'Italie, qui est aussi une porte d'entrée des migrants, qui réclament une européanisation des frontières extérieures. Voilà. Mais donc, il y a d'autres États membres qui souhaitent garder leur souveraineté à leurs frontières, du coup, qui ont un peu peur de ce que ça va faire, en fait, s'il y a cette force supérieure qui peut se déclencher un peu n'importe quand, quoi. Voilà, ça risque de faire une ingérence quand même des compétences de l'Europe qui peut faire flipper. Bon, voilà quoi.
Est-ce qu'on parle un petit peu de la rue en Argentine après les urnes?
Ah oui, mais...
On n'avait pas eu le temps.
Oui, mais comme on va faire un petit agenda après, je vais juste... Ah non, parce que la dernière fois, c'était les mines en Argentine.
Ah, c'était les mines. Ah ouais.
Mais c'est pas grave.
Un petit truc Argentine, donc.
Oui, c'est ma nouvelle rubrique personnelle. Je vais vous en parler vite fait parce que là, ça va être chiant sinon. Mais alors, du coup, pour resituer là, en Argentine, depuis le 10 décembre, il y a un nouveau président qui est Mauricio Macri. Qui est Mauricio Macri? Eh bien, c'était le maire de Buenos Aires jusqu'à maintenant. Et il est de centre-droite. Et il a déjà fait beaucoup de dégâts à Buenos Aires. Et maintenant, il a été élu, bêtement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à faire de la merde, des mesures de droite, quoi. Voilà, du coup, aujourd'hui, il y avait les Argentins qui étaient dans la rue. Et hier, il y avait des dizaines de milliers de personnes à Buenos Aires pour protester contre les mesures de Macri, du coup, qui remplacent les Kirchner qui étaient là pendant très longtemps. Donc là, le nouveau pouvoir a supprimé les taxes sur les exportations de céréales et de viande. Il a réduit d'autres taxes faisaient sur les ventes de soja, la principale richesse du pays. Et c'est du coup maintenant, en fait, Macri, il entend normaliser et libéraliser l'économie. Après, du coup, 12 ans de forte intervention de l'État. Voilà, donc ce qu'il a fait là, c'est qu'il a levé le contrôle des changes. Voilà, donc c'est comme ça depuis mercredi. Donc, quel est le risque? C'est du coup l'inflation. Donc, les Argentins, ils connaissent bien ça, en même temps l'inflation, donc ça ne les changera pas trop. Bon, allez, on va passer à l'agenda.
Agenda.
Alors, ce soir, au local féministe de la Guy, c'est le café.